J'ai écrit ce texte pour le hors-piste 2020 au Centre Pompidou, à Paris. Et c'était pendant le cycle de conférences Les Carnavalesques, présenté par Julien Marchand. Tout ça m'est paru très très bizarre d'être programmé dans ce cycle de conférences à Paris, parce que je voyais pas comment je pouvais écrire sur quelque chose qui était en lien avec cette ville. Et donc je me suis retrouvée un peu perdue et je savais pas comment faire, quoi, pour impliquer des choses qui me touchent depuis le Limousin jusqu'à Paris, quoi. Et donc est arrivé ce moment où je me suis dit que tout était terminé et que rien n'existait et que la seule chose qui pouvait perdurer, c'était la poésie. Et c'est vraiment super bizarre de dire ça, mais en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était la seule chose intense qui pouvait faire que je pouvais éventuellement créer une sorte de valise imaginaire qui me permettait d'aller à Paris avec des choses à dire.
J'ai posé dans ma cagette quelques pensées auxquelles je tiens et d'autres qui m'emmènent à regarder le monde de plus ou moins près. Parmi ces choses auxquelles je pense, les lits des rivières. Je ne connais pas encore de ruisseaux qui changeraient de chemin, des déserteurs, des déserteuses, mais j'ai vu des multitudes de courants contraints, de tout petits ruisseaux, écoulant leurs derniers instants dans de plus grandes rivières. N'échappant plus aux aménagements humains, on prend pour catastrophe chaque débordement, puis ce qui disparaît, on le reconstruit à la même place, sans questionner la liberté des eaux. Je n'analyserai pas les lois et tout ce qu'elles entraînent comme deuil, même si nous pourrions ici faire des analyses fines et précises, compter l'augmentation des violences policières, des dispositifs de caméras sur poteaux ou sur humains, l'accumulation de fourgons, de voitures, de motos, d'hélicoptères, et poser là derrière les derniers chiffres comme témoins, ou plutôt comme témoignages, regarder comment nos villes et villages et routes de campagne ont changé, comment là-bas ou ici, l'État policier investit une place au bord des routes, au bord des chaînes, au bord des bourgs. Sommes-nous semblables à cette foule, pris tous ensemble dans un dispositif? Parce que là où nous habitons, ainsi qu'à plein d'autres endroits, les rivières sont contrôlées. Certains humains entretiennent un rapport à ces flots par les aménagements de type barrage. Les dispositifs dans lesquels se jettent et s'entraînent les courants d'eau sont autant de lois et de présences policières surveillant sans cesse tout ce qui déborde. L'eau, aujourd'hui, ainsi que ses petits courants, ne consentent plus à une liberté, cohabitant avec la gravité et ne faisant rien d'autre que couler pour exister. Malgré elles, ces foules sont assujetties aux industries, comme nous sommes emprunts chaque jour des autorités, du gouvernement et du capitalisme, concentrés vers un même point, la production, la consommation, et ainsi de suite. Ceci étant tout à fait extravagant, il arrive parfois que les rivières débordent. Une colère légitime qui devra s'adapter à une réponse humaine plus puissante. Il faut gérer les foules, les disperser aussi, et surtout dissuader. Et enfin, si tout cela ne suffit pas, on loge par-ci, par-là, des protocoles cyniques qui entreront si bien dans nos esprits que nous finirons par oublier qu'un jour, nous avions le droit de sortir dans la rue. Ainsi, depuis la campagne, le regard que je pose sur la ville est la perception d'un espace quadrillé et occupé. Alors qu'allons-nous retenir de la ville, et puis que restera-t-il de nos fêtes? À l'image des rivières, en nous comparant aux ruisseaux, et au-delà des courants et de la composition des chemins, complices de ceux qui sont discrets, dessinés par les animaux, regardés par les oiseaux, ceux qui construisent des mondes rentables ont violemment modifié les espaces. Parmi ce que l'on peut observer comme étant des techniques relatives à ce que l'on pourrait nommer dispositifs, à l'intérieur desquels se trouvent ces formes qui nous englobent, dans un paysage surveillé, défini, et duquel il est difficile de s'extraire, s'applique la froide décision de l'interdiction de l'anonymat dans l'espace public. l'interdiction d'avoir dans un sac cagoule, lunettes de piscine, coupe-vent imperméable, boules de pétanque. Qui d'ailleurs n'ont probablement jamais été restituées à leurs usagers. Potentiellement, il faudrait organiser des tournois devant les commissariats et l'équipe gagnante pourrait récupérer au moins une partie des boules volées. Alors pour en revenir aux froides décisions, face à une dérive de contrôle importante des individualités, cette règle est vécue comme dissuasive car elle incrimine d'office. Prévenir les foules, l'État cherche avant tout des coupables, punit avant même d'avoir pensé à commettre. Est-il possible de défendre l'anonymat sans que l'on entende la version naïve de son contraire ? Que celui qui ne plonge pas son visage dans l'obscurité est l'innocent, celui qui n'aurait rien à se reprocher. Pour ne pas oublier que nous pouvons contester, davantage au sens de se dérober des systèmes de surveillance, de cette injonction à être visible, reconnaissable, dans les rues, sur Internet, les possibilités permanentes de tracer des lignes, de faire des liens, de tout expliquer de nos rapports, entre nous, de la façon dont nous arpentons, interagissons avec ce qui nous entoure. Comment échapper au fichage ou encore à la collecte d'informations, de données de nos visages ? Comment s'échapper de la pression sur nos corps qui sont sans cesse visés ? Car ce sont nos corps qui sont pointés, sortis de la foule. Des millions de corps expliqués, par des gens qui connaissent qui parlent à qui, par des gens qui expliquent à des chefs et des sous-chefs dans des sous-sols comment ça se passe. Une fois le voile ôté et la capuche renversée, le pouvoir pose son regard sur les visages retrouvés. Les foules et les rivières sont parfois les mêmes mouvements. Les barrages, les digues et les flics aussi sont parfois semblables. Se ressaisir des fêtes pour habiter les lieux. Depuis fort longtemps, les carnavals ont été interdits, puis remaniés par les dirigeants des villes et des villages. Ils ont interdit la fabrication de masques ou le simple fait de les porter. Aujourd'hui, de nouveau, la cagoule ou tout objet qui permet de dissimuler le visage est de nouveau confisqué et puni, aux abords d'une manifestation et dans l'espace public. Destituer le carnaval aux institutions en se réappropriant les rues et les places aussi. Faire des carnavals de quartier, défaire les calendriers et que se déroulent des mascarades à n'importe quel moment de l'année, pendant lesquelles des habitants se retrouvent pour fabriquer des bonhommes de papier ou de choses récupérées dans les rues de la ville. Nous pourrions rendre les rapports de police ridicules.
Une meute de chiennes à deux pattes au museau de multiples couleurs a été interpellée pour incitation à l'émeute.
Et si grand drame se passe, comme quelqu'un qui urinerait sur un monument ou des statues qui seraient fouettées, eh bien peut-être que ces actions nous permettraient tout de même de chahuter quelques malfaiteurs. Du sud au centre, en traversant, nous avons expérimenté ce qui ne part quasi que de choses glanées et qui deviennent ce moment qui réunit la foule et les formes. Et c'est par cette poésie-là que nous trions ce qui reste avec nous et ce qui disparaît. Enfin, quelque part, non loin de ce que l'on nomme montagne, espace traversé par rivière ou encore plateau, nous construisons des monstres fourrés de feuilles et de paille qui ne trouveront leur présence au monde que pour être construits ensemble et puis brûlés ensuite. Pour finir, le lit de la rivière n'est point celui où l'on s'endort, mais celui où nous pouvons rendre les villes vulnérables.